Bon, bah, bonjour tout le monde et bienvenue en Meuse pour cette petite présentation. Donc, moi je m'appelle Julien, je suis brasseur amateur depuis 7 ans à peu près, j'habite à Bruxelles. Et aujourd'hui, je remplace Louis de la Caisse à outils. Alors, pour ceux qui n'ont jamais connu la Caisse à outils, c'est à la base une brasserie associative qui s'est créée au fin fond de la Creuse. Puis, c'est parti petit à petit sur une chaîne YouTube et Twitch où on organise régulièrement des lives, que ce soit d'interviews de brasseurs, d'assos ou de gens qui tournent autour de la bière. Ou, et ça, c'est plutôt moi qui m'en occupe, des lives de FAQ brassage amateur. Donc, on a l'occasion de recevoir toute une série de personnes, notamment Fabien, qui est déjà intervenu plusieurs fois sur notre chaîne pour des FAQ. Et alors, la présentation que Louis voulait faire aujourd'hui, avant de lâchement tous nous abandonner parce qu'il ne savait pas sortir du fin fond de la Creuse, c'était une présentation dédiée à la création de recettes. Alors, bon, la perspective va plutôt être celle de brasseur amateur que de brasseur professionnel parce qu'on est tous plutôt amateurs. Notre côté, ici, de votre côté, il y a quelques professionnels donc qui vont peut-être parfois trouver nos méthodes moins adaptées à eux. Erratique. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à suggérer quoi que ce soit. J'ai récupéré le PowerPoint de Louis ce matin, donc il va falloir être interactif pour un peu. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Non, ça, c'est. Donc, évidemment, la première chose essentielle pour la création de recettes, c'est les ingrédients. Comment connaître les ingrédients, comment savoir quels ingrédients mettre. Alors, bien sûr, on a des descriptions qui sont fournies par les vendeurs. Une description de houblon, une description de malt. C'est bien quand on sait de quoi ça parle, quand on est un peu habitué. Mais pour ceux qui commencent, c'est surtout vague, les descriptions. C'est parfois difficile de travailler uniquement avec des descriptions. Alors, bien sûr, à côté, on peut faire des tests, hein, des smashs pour des malts de base. La variante d'une smash quand on veut tester un malt ambré ou un malt caramélisé ou un malt noir, ça va être de faire une mini stout, bien sûr. Mais le gros souci d'un test, c'est qu'on se retrouve avec 20 litres, même pour un amateur. Juste pour un test, c'est un peu beaucoup, donc c'est pas toujours très pratique. On ne peut pas se permettre de tout tester. Bien sûr, il y a la possibilité de faire des tests comparatifs très faciles dans certains cas, par exemple diviser un brassin en deux ou plus avec des levures différentes pour faire des comparaisons, ou des dry-up différents, ou des cold steep de malt noir différents. Mais encore une fois, c'est difficile de tout tester. Donc, l'alternative, c'est... D'accord, il y a une jolie photo d'Allegoria, c'est d'arriver à éduquer son nez. Donc, éduquer son nez, ça va se faire comment? Ça va se faire typiquement en dégustant non seulement de la bière, mais aussi des vins, des plats, tout simplement, avec le descriptif à côté, quand on a les moyens de l'avoir, chercher systématiquement les goûts, le loto des odeurs qu'on a peut-être tous eu et qui est un outil très pratique pour ça. L'idée, c'est vraiment d'arriver à associer les arômes, à les mémoriser aussi, à développer une mémoire des arômes et des goûts pour pouvoir, in fine, les recréer dans sa tête. Hein. Un autre truc très pratique, évidemment, c'est de cuisiner. Je pense que la plupart des gens qui aiment brasser aiment souvent cuisiner aussi. Cuisiner des plats épicés en les composant uniquement à l'odeur, ça aide vraiment à développer un palais et ça permet de s'armer pour pouvoir justement lire ces descriptifs, savoir à quoi s'attendre, savoir comment les recombiner dans sa tête. Donc c'est toute une gymnastique de l'esprit qui permet à un moment de, à force d'entraînement, non seulement sur la bière, mais sur des tas d'autres trucs, de pouvoir imaginer à partir de quelques descriptifs ce qu'une bière va pouvoir donner. Alors en plus des ingrédients, pris indépendamment les uns des autres, il faut savoir les combiner. C'est-à-dire que certains ingrédients vont spécialement aller bien avec d'autres. Quelques exemples d'ingrédients qui s'utilisent. La façon typique dont on peut les utiliser, le malt munich par exemple, va souvent servir de renfort à un malt de base. Il va rarement être utilisé tout seul, ou alors il va être utilisé comme malt de base typiquement dans des lagers sombres comme des Schwarzbier, des Baltic Porter. Mais commencer à mettre une large quantité de malt munich dans une bière plutôt pâle, ça risque de donner un goût de pain cuit, ce qui est le goût typique du munich, beaucoup trop fort. Une façon évidemment de savoir comment s'utilisent typiquement les ingrédients, c'est de lire et comparer beaucoup de recettes, de faire quelques statistiques. Alors, il y a le livre Design Great Beers, certains le connaissent, c'est un livre avec une couverture bleue à qui je reproche parfois d'être juste un gros compte-rendu statistique, mais c'est très pratique pour voir ce que typiquement comment typiquement certains malts, certains houblons vont être utilisés, dans quel ratio de quantité. Il y a aussi quelques clichés, quelques utilisations absolument systématiques d'ingrédients. Si vous faites une bière belge forte, partez du principe qu'il y aura 10% de sucre dedans. Partez du principe que les houblons aromatiques sont du Sads et du Styrian Golding. C'est quasi systématiquement le cas et ça permet de partir d'un bon point de départ. Une bière anglaise va systématiquement renforcer un peu son caractère maltais, non pas avec du Munich, mais plutôt avec du Cara. Il y a aussi parfois quelques raccourcis, par exemple, quel malt de base. Si vous partez sur une bière anglo-américaine, utilisez du Pale, sur une bière belgeo-allemande, utilisez du Pilsner. Il y a moyen de varier, évidemment, mais ce sont des grandes lignes qu'on voit très souvent. Aussi, lorsqu'on conçoit une recette, on finit toujours par adopter quelques automatismes. Par exemple, le houblon amérisant, c'est une question qu'on se pose rarement. Moi, j'utilise systématiquement du Magnum, par exemple. C'est pas cher, c'est fort amer, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça marche. La durée d'ébullition, certaines recettes proposent des durées différentes, mais très rapidement, on se fixe sur... une fois qu'on connaît un peu son matériel, on se fixe sur une durée d'ébullition. C'est rarement un paramètre sur lequel on a besoin de jouer. Les schémas d'empattage aussi. Moi, j'ai quelques schémas. Si vraiment il faut, parce qu'il y a beaucoup de blé, beaucoup de céréales crues, on va faire un palier protéiné. Mais la plupart du temps, on n'en a pas besoin. Un palier principal. Certaines personnes vont faire plusieurs paliers de mash, mais un palier principal est amplement suffisant. Moi, j'aurais typiquement tendance à faire 75 minutes à 63 degrés pour une bière sèche, une heure à 67 degrés pour une bière moyenne, on va dire, et 45 minutes à 68-69 degrés pour une bière forte. Ce sont des paliers que j'utilise systématiquement. Il est rare que je sorte de ça, donc ce sont des mécanismes de conception. Le mash-out, certains posent la question s'il faut le faire, pas le faire. Moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Donc, ce sont quelques, on va dire, paramètres qui sont fixes de recette en recette et qui permettent d'avoir ça en moins de questions à se poser. Et aussi quelques tips à savoir. Par exemple, sur une bière au seigle, un peu de malt Vienna va vraiment facilement renforcer le malt de seigle. C'est un truc assez pratique à savoir si on fait une rye IPA. Souvent, on a tendance à faire une bière uniquement avec des houblons américains, uniquement avec des houblons européens plutôt traditionnels, mais il faut savoir que certains houblons européens traditionnels qui s'utilisent en faible dose, le Hersbrücke, le Tetnang, sont en fait assez fruités, surtout quand on les utilise en forte dose. Il y avait un article de Brulosophie sorti il y a quelques mois où l'un de leurs contributeurs avait fait une NEIPA au Tetnang qui envoyait des notes d'abricot et d'ananas très puissantes. Donc, il y a moyen d'en tirer quelque chose. Et ces houblons utilisés dans des doses un peu plus fortes que d'habitude, combinés avec des houblons comme du citrap, peuvent très bien marcher et tirer des goûts fruités un peu plus généraux qu'on ne trouve pas spécialement dans les houblons typiquement considérés comme fruités, donc les houblons modernes américains, on va dire. Un autre truc très pratique lorsque vous faites des bières un peu plus puissantes, typiquement des Imperial Stout, on peut très rapidement gagner en complexité en utilisant trois maltes noirs, donc par exemple de l'orge grillée, du carafa, du chocolate, ou trois maltes caramélisées. Et on va avoir, tout simplement en multipliant le nombre de maltes, une bière qui a une impression beaucoup plus structurée, beaucoup moins monodimensionnelle. Donc ça concernait les ingrédients, les combinaisons d'ingrédients. Maintenant, si on veut, à partir de ces ingrédients, pour concevoir des recettes, il y a trois approches. Hein. Est-ce qu'on va chercher spécifiquement à s'approcher d'un style, ou plutôt créer une recette soit en imitant ou s'inspirant d'une bière, soit ex nihilo, ça revient à peu près au même. Et alors, j'avais voulu rajouter une dernière partie sur concevoir une bière autour d'un fruit. Concevoir une bière au fruit, comment intégrer le fruit dans une bière. Comment créer une bière à partir d'un style classique ? Évidemment, commencer par essayer de trouver quelques exemples classiques, de déguster des exemples classiques, tout en s'accompagnant de descriptions et d'essayer de retrouver les grands points d'arômes qui sont associés à ces bières dans les exemples qu'on déguste. Il y a parfois des brasseries qui publient leurs recettes, donc là c'est très chouette de pouvoir la déguster et essayer de retrouver les ingrédients. Ça peut être un bonus, même si c'est évidemment pas du tout obligatoire, de connaître un peu l'histoire et le développement du style, comment il a évolué. Ça peut parfois amener des perspectives intéressantes. Et puis, évidemment, il y a plein de ressources sur Internet ou dans la littérature qui proposent des recettes. Les lire et les comparer. Alors, par exemple, ici, ce sont quatre recettes d'une mild ale de Modern Homebrew Recipe de Gordon Strong. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles ont typiquement en commun un taux d'alcool qui tourne dans les 3% avec une densité initiale dans les 1035 et une densité finale de 1015 à 1010, ce qui paraît moyen, mais en fait un peu haut par rapport à la densité initiale très faible. On voit qu'on va utiliser des maltes britanniques, typiquement, comme malt de base. Une quantité qui oscille entre 10 et 15% de malt caramélisé. Certaines recettes vont préférer un seul malt, d'autres plusieurs. Et une petite quantité qui excède rarement 5% de malt noir, du chocolat, du carafa. Petite quantité de houblon, donc on vise moins de 20 IBU, rarement du houblon aromatique. Dans les quatre recettes qui sont ici, il y en a deux qui utilisent du houblon aromatique, mais on parle de 0,3 à 0,5 grammes par litre, donc vraiment très peu, et évidemment des levures typiquement britanniques. Donc si je voulais, à partir de cette comparaison, essayer un peu de me faire l'image d'une mild typique, on va arriver à 3% d'alcool typiquement, avec un malt de base britannique, du un ou plusieurs malts caramélisés, un peu de malt noir, et c'est exactement ce que je viens de vous dire, une levure britannique qui n'atténue pas trop pour quand même pouvoir garder ces à peu près 1010 de densité finale en partant de très bas. Et on peut essayer de faire des cartes d'identité, si on veut, de la recette typique de différents styles. Par exemple, si on prend une blanche typique, on va être sur un mélange environ moitié-moitié de malt pilsen et malt de blé. Et de blé, qui va être dans une proportion variable de malt et de blé non malté. Traditionnellement, ils vont utiliser 20% de blé malté, 30% de blé non malté. Mais moi, je vais utiliser uniquement du blé malté parce que c'est beaucoup plus facile. Souvent, la différence est peu notable. On va trouver certaines blanches qui vont utiliser un peu d'avoine, 5 à 10%, pour ajouter un côté crémeux. Typiquement, elles n'ont pas de malt aromatique et une amertume très limitée, et l'usage évidemment très connu de coriandre et d'orange dans des doses d'environ 1 g par litre. Typiquement, par exemple, une New England IPA va utiliser des malts le plus pâles possible, des malts de blé, des flocons pour amener le maximum de texture sans avoir à utiliser des malts caramélisés, puisqu'on cherche vraiment à avoir quelque chose de crémeux et très pâle. Les NEIPA requièrent un travail de l'eau que Fabien a déjà abordé. Des houblons qui sont évidemment américains et à fond sur les goûts tropicaux. L'amertume va être la plupart du temps restreinte. C'est pas toujours le cas. En France, c'est quasi typiquement le cas, mais on a des exemples américains qui montent pas mal dans les IBU. Et on va chercher des levures qui laissent un certain sucre résiduel, qui ont une faible atténuation. Ça va typiquement être des levures anglaises, histoire de garder ce côté rond et crémeux en bouche. Alors, ma démarche typique pour créer une recette à partir d'un style, bon, j'ai évidemment commencé à sélectionner le style de façon assez évidente et voir un peu les limites de densité initiale, densité finale, taux d'alcool, couleur et amertume, donc les données qui peuvent être encadrées. En général, je commence par décider du taux d'alcool et de la densité finale. Alors, peut-être pas à l'unité près, mais de savoir si je veux une bière plutôt sèche ou une bière plutôt ronde, c'est une des premières décisions que je prends. À partir de là, je me prends une levure qui est adaptée au style et qui aussi va un peu déterminer cette densité finale. Et je choisis le schéma d'empattage. Je fais ça avant de commencer à ajouter les malts, parce que ça me permet d'atteindre mon taux d'alcool tout en ayant la densité finale, ou en tout cas à peu près la densité finale, l'impression de sécheresse ou de rondeur que je veux. Quand j'ajoute les malts, on va typiquement commencer par les malts spéciaux, les doses de malts spéciaux dont on a besoin, et puis compléter avec son malt de base pour atteindre la densité initiale qu'on cherche à avoir. Ou alors, c'est une petite subtilité pour les utilisateurs de Beersmith, c'est de, quand on travaille en pourcent, qu'on veut 80% d'un tel malt, 15% d'un autre, 5% d'un autre, mettre 800 grammes, 150 grammes, 50 grammes, et puis, donc, pour avoir le pourcentage direct, et puis monter le curseur de la densité initiale pour monter progressivement jusqu'à la valeur voulue. À partir de ça, parfois, on va devoir changer légèrement le schéma d'empattage pour réajuster sa densité finale. Pour ce qui est de l'amertume, travailler avec le ratio amertume-densité initiale est très pratique. Donc, Louis le mentionne dans une vidéo qui va être intégrée plus tard, mais bon, vous avez une bière qui a une densité initiale, disons, de 1060. On va dire qu'elle a 60 unités de densité. Mettons qu'elle est 30 IBU. 30 IBU pour 60 unités de densité, c'est un ratio d'amertume sur densité d'un demi. Ça, c'est typiquement une bière équilibrée. En dessous d'un demi, vous allez être vers une bière qui est de plus en plus ronde. À 0,75, vous allez être vers une bière qui commence à devenir amère, et à 1 au-delà d'un, une bière qui est franchement amère. C'est un outil assez pratique pour déterminer, une fois que vous avez déterminé votre densité initiale, combien d'IBU vous voulez cibler. Ensuite, une fois que vous avez décidé de vos IBU, vous pouvez partir de... Moi, je commence toujours par les houblons aromatiques. Je décide de la dose de houblon aromatique que je veux. Ça peut aller de 1 à 2 grammes par litre pour une bière qui va être vraiment maltée, à laquelle je veux juste donner un peu de fraîcheur et un petit côté herbacé, à 10 grammes par litre quand je veux une IPA un peu plus bourrine. Ces houblons vont me donner une certaine IBU et à partir de là, je vais rajouter mon houblon amérisant qui pour moi est systématiquement du magnum. Certains vont peut-être varier les houblons amérisants, mais comme je le dis, c'est souvent plus facile d'en avoir un seul. Et je vais donc ajouter ce houblon amérisant jusqu'à ce que j'ai mes IBU désirés. Alors ensuite, on peut éventuellement décider d'ajouter d'autres aromates dans certaines doses. Donc, la dose d'équilibre pour une épice, c'est typiquement pour des épices douces comme les très clichés écorce d'orange et coriandre, on va typiquement tourner autour d'un gramme par litre plus, et ça commence à un peu se distinguer et devenir une soupe aux épices pas très intéressante honnêtement. Mais il y a des épices assez caractérielles. J'ai fait il y a quelques mois une pilsner au cardamome. C'est une épice très puissante, 0,2 grammes par litre, donc 4 grammes pour mon brassin de 20 litres, c'était assez pour saturer entièrement le goût et ne goûter plus que le cardamome. Ce qui en fait honnêtement une pas très bonne bière. Donc certaines épices, on doit vraiment réduire la dose. D'autres épices, tout ce qui est les piquants, les poivres, les gingembre et les piments, sont très délicats à travailler parce qu'ils ont une tendance à saturer le palais. C'est-à-dire qu'à la première gorgée, pourrait paraître équilibré, mais à la fin du verre, le palais est saturé par une sensation de brûlant. Et donc, ces épices doivent aussi être ajoutées avec une main très légère. Évidemment, la plupart du temps, quand on connaît ces doses, on va ajouter ces épices en fin d'ébullition, mais une solution quand on hésite sur les doses, c'est ce qu'on appelle la teinture. Vous prenez de l'alcool le plus fort possible. En Belgique, on peut avoir de l'alcool à 96%. En France, je pense que vous êtes restreint à 70%. Vous prenez une petite quantité de cet alcool, juste de quoi couvrir vos épices. Quelques jours de macération. Et puis ensuite, très facilement, vous ajoutez cette teinture d'épices à la bière une fois qu'elle est terminée jusqu'à ce que le goût soit satisfaisant. En se rappelant encore que certaines épices, les épices piquantes typiquement, la sensation de piquant arrive progressivement et donc la main légère. Voilà. Donc, c'est la deuxième approche pour concevoir une bière qui va être soit ex nihilo, soit en cherchant à imiter une bière plutôt qu'un style. Louis va vous la présenter à distance via une vidéo qu'il avait enregistrée il y a quelques temps et qui voulait intégrer à cette présentation. Donc, messieurs, dames, Louis.
Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment créer une recette ou l'inventer lorsque l'on part de zéro.
Lorsque l'on commençait à brasser, on utilisait les recettes que l'on trouvait dans les livres qu'on avait achetés, comme celui de la Montreuilloise ou Secret de Brasseur. Puis après, on est allé voir les recettes que l'on trouvait sur le site de Beersmith. On essayait des recettes à droite à gauche, sans réelle méthode. Au final, on expérimentait. Puis, à partir de l'expérience, on a commencé à faire nos recettes nous-mêmes sur LittleBock. Utiliser un logiciel de brassage nous a aidé à structurer nos idées lorsque l'on veut créer une recette. C'est pourquoi, dans la suite de cette vidéo, on va voir une méthode largement guidée par l'article du blog de Quentin, de la Brasserie du Vallon, dont le lien est dans la description.
Tout d'abord, on va chercher à décrire ce que l'on veut avec des mots simples, et à faire quelques phrases courtes de 2-3 lignes pour résumer notre objectif. Ici, on ne va pas parler trop d'ingrédients, mais plutôt de goût, d'arôme. On laisse un peu la partie technique et brassage de côté pour le moment. On peut partir d'une bière que l'on connaît pour essayer de faire quelque chose qui s'en rapproche. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais. parce que je n'avais pas le vocabulaire ou la culture bière qui allait avec cet exercice. Par exemple, si je veux quelque chose de proche de la triple carmélite, je me rappelle que c'était une bière assez forte aux notes d'agrumes et d'épices. Elle aura une saveur plutôt maltée, équilibrée, avec de très légères notes biscuitées. Son amertume sera faiblement marquée et le houblon peu présent. C'est un style assez gourmand, plutôt fort, c'est une triple belge.
Personnellement, je vais pas mal sur le guide des styles BJCP que l'on peut trouver sur brasseuramateur.com pour voir quel vocabulaire ou quelle méthode est utilisée pour décrire un style. Je regarde aussi comment ils séparent et organisent leurs descriptions. Ça m'aide beaucoup quand je crée une recette de bière et ça permet de garder une ligne directrice. Voilà, maintenant je vais chercher à encadrer ma recette par des valeurs mesurables, telles que la couleur, le degré d'alcool ou l'amertume. On pourrait utiliser d'autres valeurs mesurables, seulement je pense que celles-ci, pour débuter, sont déjà bien.
La couleur est souvent utilisée pour décrire une bière, c'est une notion connue de tous et très utile, l'unité européenne et l'EBC. Ici, vous pouvez voir quelques exemples de couleurs associées à des styles de bière. Pour ma triple, j'aimerais être autour des 10 EBC. On peut aussi rajouter la limpidité recherchée, là j'aimerais une bière légèrement trouble. L'alcool est aussi une notion très connue, le taux d'alcool a une influence sur les qualités gustatives d'une bière, son goût, son corps, sa chaleur. Plus il y a de malt, plus il y a de sucre et de goût, et plus il y a d'alcool. Bien sûr, d'autres facteurs influencent tout cela, mais l'idée c'est de saisir facilement les notions de base. Ma bière sera donc ici aux alentours de 8 degrés. Je veux une bonne bière d'apéro que l'on boit avec une certaine attention. Le ratio amertume-densité initiale est l'indicateur de l'équilibre de notre bière. On peut aussi l'appeler l'amertume ressentie, car la densité, et donc le taux de sucre, vient influencer la manière dont on ressent l'amertume. Je ne vais pas rentrer dans l'explication du calcul de l'amertume dans cette vidéo, et je pars du principe que pour créer notre recette, on utilisera un logiciel de brassage comme LittleBock par exemple. Pour ce qui est de la densité, vous pouvez aller voir sur le lien qui s'affiche ou dans la description. Donc le ratio en question se calcule de cette manière. Il est en général compris entre 0,3 et 1. On part d'une bière avec une saveur douce de malt à une IPA hyper houblonnée. Dans mon cas, j'aimerais que la douceur maltée s'équilibre bien avec l'amertume.
J'ai pas mal dégrossi la recette de ma bière, c'est pourquoi maintenant je vais passer à son élaboration sur un logiciel tel que LittleBock.
Je rentre donc toutes les informations de départ liées à ma méthode et mon équipement. Je ne choisis pas de style, je vais faire en fonction de ce que j'ai déterminé auparavant. Je choisis ma levure, ici une BE256 de Fermentis. Je rentre mon profil d'empattage, mais je m'attarde pas là-dessus dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet. Et ensuite je mets 10 kg de malt pils et du malt de blé qui viennent tous les deux de la malterie des volcans. Cela me donne un taux d'alcool légèrement inférieur à ce que je cherche, seulement avec le resucrage je vais gagner à 0,3-0,5%. Maintenant j'ajoute mon houblon en fonction de ce que j'avais défini, et je cherche à obtenir le bon ratio amertume-densité initiale. Je tâtonne et petit à petit j'obtiens approximativement la valeur que je recherche. Et enfin pour les notes d'agrumes et d'épices, je choisis la facilité et je rajoute de l'écorce d'orange et de la coriandre. Voilà, ma recette est terminée, je n'ai plus qu'à la brasser.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Sinon, je vous souhaite un bon brassage et je vous dis à la prochaine.
Ça, c'était l'approche que Louis nous proposait pour imiter une bière. Et pour ce qui est de créer une bière à partir de rien, sans spécialement chercher à être dans un style, en fait, l'approche est à peu près la même. Commencer à la décrire, décrire ce qu'on veut. Alors, par des phrases courtes avec des mots simples, si vous êtes Louis, mais si vous vous sentez de mettre des phrases longues, vous pouvez aussi. Donc, une dernière partie que je voulais mettre dans cette présentation, c'était brasser une bière avec des fruits. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il y a, on peut pas mal de choses qui sortent un peu du sentier battu de la blanche aux fruits éventuellement pétée d'aspartame. Alors, bon, la première question qui fâche quand on fait une bière aux fruits, surtout en tant qu'amateur, parce qu'on vient de tomber sur des fruits et qu'on a envie de faire quelque chose avec, quid des ferments sauvages ? C'est vrai qu'un fruit va typiquement, en tant que source de sucre, à agglomérer toute une série de levures, de lactobactéries, et encore, parfois, des trucs un peu plus ennuyants. Alors, on peut les pasteuriser. Le gros souci de la pasteurisation, évidemment, c'est que on risque de cuire le fruit et d'avoir quasi systématiquement un goût de compote, en fait, de fruits cuits. Alors, on peut baisser la température de pasteurisation au maximum. Il y a moyen d'avoir une pasteurisation à 60 degrés, mais on s'assure d'une pasteurisation à 60 degrés au bout d'une heure, quelque chose comme ça. Il y a moyen d'utiliser des purées de fruits qui sont souvent flash pasteurisées ou neutralisées aux ultraviolets. C'est bien, mais il faut acheter ces fruits-là. Et souvent, en tant que brasseur amateur, ce qu'on aime, c'est brasser quand on tombe sur un fruit et plus partir de l'opportunité d'avoir le fruit pour construire la bière autour que de se décider à l'avance et d'aller chercher chez Metro de la purée, même si je le fais. Une autre solution, c'est de sulfiter son fruit. Alors, certains vont trouver ça bof. Je vais poser une question. Qui a déjà goûté une bière au sulfite? Tout le monde. Tout le monde, parce qu'en fait, les levures produisent elles-mêmes des sulfites. Et les doses de sulfite dont on a besoin pour neutraliser un fruit sont inférieures aux doses de sulfite que la levure va de toute façon faire. Donc, on n'est pas obligé d'y aller comme un porc, comme certains viticulteurs industriels, mais faire prendre un petit bain de sulfite à certains fruits sur lesquels on a un doute, c'est pas dramatique et ça va pas ajouter beaucoup plus de sulfite qu'il y en aura déjà dans la bière, rien que grâce à la fermentation. Et... Ah, je les ai pas en tête ici, mais... Je vais rechercher parce que c'est noté quelque part et je vous le dirai après. Mais je l'ai absolument pas en tête. Alors, la congélation, ça va diminuer les populations de micro-organismes, mais ça ne va pas les tuer toutes. En fait, ce qui se passe dans la congélation, c'est qu'il y a des cristaux de glace qui se forment et qui déchirent les parois cellulaires des micro-organismes. Donc, ça va en tuer beaucoup, mais pas tous. Donc, on prend quand même des risques. Par contre, la congélation est très utile pour augmenter l'extraction du fruit. En déchirant les cellules du fruit, on...
Si tu achètes des fruits, là, pour être sûr, parce que nous, on congèle à la maison.
Oui, bien sûr.
Et si tu achètes un fruit chez, par exemple, Thierry ou autre, eux, ils surgèlent, ils sont à moins 70.
Donc, oui.
Si les fruits vont plus loin, peut-être que c'est moins dangereux. Et tu es plus sur le fruit frais, sur la démarche du fruit frais que tu disais.
Oui, bah, il m'arrive d'utiliser des fruits congelés ou de congeler des fruits parce que je les récolte à un moment et je ne peux pas brasser la bière à ce moment-là. Donc, il m'arrive de les congeler, mais je ne compte pas sur la congélation pour les faire. Puis, il y a aussi la solution de s'en foutre, en fait, de laisser les ferments. Et j'avoue que ça m'arrive régulièrement parce que de toute façon, souvent, les bières aux fruits vont être… On va faire des bières sèches. Donc déjà, le micro-organisme n'aura pas grand-chose à becquer. Bon, après, c'est vrai qu'ils peuvent quand même se développer. Et parfois, partir sur un truc de fermentation mixte très bien, et d'autres fois, un peu moins bien. Donc, cette solution, elle peut marcher dans une certaine mesure, typiquement en ajoutant le fruit à une bière déjà fermentée, de préférence une bière acide. Le pH bas et l'alcool vont quand même faire en sorte que seules des levures et des lactobactéries pas bien méchantes peuvent se développer. Mais c'est un risque à prendre. Moi, c'est un risque que j'aime bien prendre. Mais bon, encore une fois, c'est ce que je disais en début de présentation. Ça s'applique très bien à des amateurs, moins bien à des professionnels. Il y a d'autres questions qui viennent avec l'intégration du fruit, évidemment. Un fruit, c'est riche en fibres. C'est souvent riche en pectine. Et les deux sont des gros, gros facteurs de gush, puisqu'ils vont créer ça. Ils vont créer beaucoup de points de nucléation qui vont permettre de beaucoup sortir. Au moment de la décapsulation, tout le CO2 va s'agglutiner autour de ces points de nucléation et faire sortir toute la bière d'un coup. Donc, c'est un gros facteur de gush. Du coup, les approches pour éviter ça, c'est une décantation très forte. Et ceux qui ont déjà brassé avec des fruits savent qu'on perd souvent... moi, il m'arrive de perdre 10% rien qu'à cause de la masse de fibres de fruits qui se déposent au fond.